Un festival dédié au conte va-t-il renaître dans le 04 ?
C'est un mot magique qui ne peut pas parler probablement aux moins de 20 ans, mais à ceux qui ont un petit peu plus de 30 voire 40 ans et plus, le mot Oralie dira bien des choses. Et c'est ce qu'il va se passer ce week-end à Fort-Calquier, les Oralie, en ce mois de juillet. J'ai le plaisir d'accueillir la cheville ouvrière de ce festival et avec qui nous allons parler du passé, mais bien sûr du présent, Laurent Descartes, qui est le directeur artistique du centre de ressources, La Baleine qui divague. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Quand je dis Oralie, effectivement, moi, il me vient tout de suite à l'esprit ce magnifique festival des années 80 qui occupait le plateau de Valensole, Gréoux-les-Bains, Riez, etc. Les Oralie de Haute-Provence qui ont été fondées par une équipe de fondu aussi, tiens, ça leur va bien, qui aimait l'oralité, bien sûr, le conte, et qui se sont débrouillés à faire venir de grands noms, par exemple Yvan Audouard, par exemple Frédéric Potecher, par exemple qui encore...
Pierre-Jacques Azélias,
évidemment, le Breton, magnifique.
Et notre ami Sévenol aussi, qui était Chabrol.
Chabrol qui était là également, et puis on apercevait et on entendait aussi le Massilia Sound System dans un très beau concert particulier il y a de ça 30 ans déjà, et Daniel Herrero par exemple, Pierre Perret, Guy Béard, etc., et des petits conteurs, des petits jeunes qui démarraient, comme par exemple Yannick Jolin, qui est devenu une star dans le monde du conte. C'est un petit peu une référence à ce festival, les Oralies de Fort-Calquier.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le conte est une affaire de transmission. C'est une transmission de quelque chose de complètement impalpable, des émotions qui sont véhiculées par quelque chose de complètement intangible, la parole. Ce qui nous intéressait, c'était de transmettre ce flambeau. Bon, c'est pas parce que ça fait 20 ans que les Oralie se sont tues en Haute-Provence qu'elles ont disparu et qu'elles ont été oubliées.
La preuve, je viens d'en parler.
Voilà. Donc, la Baleine est basée à Marseille depuis 20 ans, on a 20 ans cette année, et ouvrant une antenne en Haute-Provence à Fort-Calquier, on s'est dit, ma foi, ce territoire parle tout le temps, donnons-lui un peu plus de voix avec les Oralie.
Alors vous avez remarqué qu'il y a un nom que je n'ai pas cité dans toute cette belle assemblée, c'est évidemment celui de Bruno de la Salle, qui est un magnifique conteur et qui est un petit peu le parrain de vos Oralie de Fort-Calquier.
Oui, tout à fait. En fait, Bruno est un très grand monsieur, qui a remis l'oralité au premier plan. Bon, c'est vrai que pour nous, en tout cas, c'est quelqu'un qui a redonné vie à ce métier, puisque dans les années 70, on parlait plus de conte comme d'un métier, mais Bruno de la Salle est redevenu le premier conteur professionnel en France des temps modernes, et il a porté des textes magnifiques comme l'Odyssée. Bruno vous raconte l'Odyssée en vers, en alexandrin, pendant une nuit entière, et vous ne pouvez pas ne pas l'écouter, et quand vous partez, vous avez encore la musique d'alexandrin dans la tête. Bruno est le seul conteur professionnel qui soit passé dans le IN à Avignon avec des créations sur l'Odyssée, mais aussi sur Les Mille et Une Nuits. C'est un monsieur qui a fondé le Conservatoire de littérature orale, le Conservatoire contemporain de littérature orale, qui est maintenant à Vendôme, dans la région centre, et qui était le directeur artistique des Oralie. Et donc, lorsque nous avons redémarré un festival, il nous a donné le nom, il nous a dit « prenez ce nom-là, il est beau, il me plaît toujours autant et j'aimerais bien qu'il revive ». Ben voilà, il revit, et donc Bruno est invité aux Oralie à Fort-Calquier.
Nous allons en reparler évidemment quand on va détailler ce programme, et vous savez que ce mot, les Oralie, effectivement va remuer beaucoup de choses et plutôt des souvenirs très sympathique et magnifique, des souvenirs intelligents, poétiques, des souvenirs comiques aussi, humoristiques et superbes pour beaucoup de basalpins et notamment des personnes autour du plateau de Valensole et de Gréoux, et j'espère qu'ils feront un petit peu le voyage, parce que l'esprit des Oralie, c'est ça qui était magnifique, oui. qui était superbe. Il y avait aussi Patrick Roudex qui jouait un rôle important et qui continue à vous soutenir, Patrick.
Oui, Patrick, bien sûr, lorsqu'on est parti sur ce nom, les Oralies, on l'a contacté et puis il a été enthousiaste à l'idée que quelque chose pouvait revenir. En fait, il y a toujours des... Quand on balaye un petit peu les cendres, il y a toujours une braise, il suffit de souffler dessus et puis le feu peut repartir et Patrick est content de nous accompagner là-dedans aussi.
Alors, je gomme votre image de l'incendie là parce que c'est la mauvaise période pour nous, donc soufflez pas sur les braises, s'il vous plaît. Mais par contre, donc, et en plus, Patrick, à l'époque, il avait de quoi l'éteindre le feu, puisqu'il était directeur des thermes de Gréoux-les-Bains, c'est ce qui est pas rien. Et donc, les thermes étaient ouverts, et c'était une belle dynamique. À ce moment-là, on parlait pas de développement territorial ou d'économie participative, des choses comme ça. Et ça se faisait naturellement, et c'est une très bonne chose.
Oui, ça se faisait, c'était, on va pas dire des doux rêveurs, parce qu'ils étaient assez allumés, les doux rêveurs en question, mais...
Je l'ai dit tout à l'heure, c'était défendu, quoi.
Oui, c'était plus
défendu,
ça, oui.
Mais c'est bien, et on a besoin de tout ça. Et vous continuez avec toujours cet esprit un peu fondu, quoi. Et donc le programme, Laurent, de ce beau week-end qui s'annonce à Forcalquier.
Alors on a prévu une première édition qui sera sur 3 jours, hein, le vendredi, samedi et le dimanche. Et le dimanche un peu particulier, on va voir ça. On a eu envie d'investir différents endroits de la ville, le cloître du couvent pour un spectacle sur scène avec du son, etc. Le parvis de la Carline pour développer le lien entre l'oralité et l'écriture.
La Carline, c'est la librairie de Forcalquier, emblématique.
Excusez-moi, c'est vrai. Et maintenant, devant la Carline, c'est nouvellement baptisé la place Pierre Magnan.
Et pour cause. Cause, Pierre y allait très souvent à la Carline.
Tout à fait. Et donc, le samedi, ça va être axé sur le livre avec des rencontres d'auteurs, de conteurs, dont Bruno de la Salle. On finira le samedi soir par une vesprée contée où les jardins des Cordeliers accueilleront les gens qui feront leur programme eux-mêmes en passant d'un conteur à l'autre pour des histoires entre chiens et loups. Et on terminera le dimanche matin avec une... Alors là, ça c'est pour les courageux.
C'est pour les couches très tard ou les lèvent très tôt aussi.
Voilà, les lèvent très tôt. Les lèvent très tôt, on les invite à venir voir ce qui se passe quand des conteurs font se lever le soleil à l'aide d'histoires.
À 5 heures du matin, à la citadelle, c'est-à-dire le point haut de Forcalquier, évidemment la vue est magnifique, vous avez une vue à 360 degrés sur le Luberon, c'est superbe, c'est à voir, il fera bon, portez même une petite laine à 5 heures du matin, on ne sait jamais, et puis laissez-vous guider par ce qui va être dit par les conteurs à ce moment-là.
Voilà, tout à fait, on raconte des histoires, comme le soleil est un curieux, il y a bien un moment donné où il se lève pour écouter les histoires aussi, et à ce moment-là, eh bien, on termine l'histoire, on prend le petit déjeuner tous ensemble là-haut, et le dimanche peut commencer.
Et attention, après, n'y restez pas toute la journée parce qu'il fait très chaud. Et je pense que ce week-end, il va y avoir un très beau soleil. Mais effectivement, les conteurs vont faire en sorte qu'il se lève à la bonne heure à Forcalquier. Donc une belle idée, ce sera la clôture de votre festival. Votre festival qui démarre le vendredi 8 avec une référence particulière à la guerre de 14.
Oui, tout à fait. Le conte, souvent, on le voit comme quelque chose... Les gens se l'imaginent peut-être un peu passéiste, ou bien pour les enfants, ou bien c'est de la lecture, etc. Enlevons-nous tout ça de l'idée tout de suite. Les contes n'ont jamais été faits pour les enfants. Quand on se racontait les grands contes merveilleux à la veillée, c'était les adultes qui se les racontaient entre eux. C'était la radio de l'époque. Hein. C'était votre ancêtre. Hein. Le gars qui, au coin de la cheminée, commence à raconter le petit chapeau en rouge. C'est pour ses compagnons de chant, de labour qu'il raconte. Hein. C'est pas pour les enfants. Les enfants peuvent écouter, mais bon. Donc, on a voulu aussi montrer qu'il y a des conteurs aujourd'hui qui font naître des histoires qui vont être portées par l'oralité, par le récit, par la narration et non pas par du théâtre, etc. Et que ces conteurs peuvent travailler sur la matière contemporaine. Et donc, on a invité un conteur qui est un fondu, lui aussi, qui a eu le projet de faire 7 spectacles qui se suivent, qui forment les 7 à la suite une grande saga familiale tout le long du XXe siècle et qui parle de différentes façons de résister. Chaque fois avec un petit parallèle à un mythe ou à un autre. Et là, la saga commence en 1917. Ce sont les tranchées, c'est la boue, c'est l'enfer de la guerre, et c'est l'épisode de la chanson de Craon. Ce sont ces jeunes gars perdus dans l'enfer qui, sur la base d'une chanson populaire, vont mettre des paroles qui parlent de leur quotidien, de leur de la guerre et de leur perte d'espoir, et qui vont mettre la crosse en l'air en disant on veut plus continuer comme ça. Et c'est les mutins. Et c'est les fusillés pour l'exemple. Et c'est toute cette page-là de l'histoire qui est très prenante, qui est très humaine, et qu'on voit là à hauteur d'homme, portée donc par un conteur qui a écrit, qui
c'est
a
François fait le récit. Godard.
François Godard, ouais. Qui vient de Poitiers, et qui est accompagné par deux musiciens, le duo s'appelle L'Inquiétant Suspendu, qui travaillent beaucoup en ciné-concert. Ils ont pléthore d'instruments, violoncelle, guitare électrique, piano, gong, ordinateur, et tout ça pour porter une épopée des temps modernes.
Alors, ce clin d'œil à 1917 et ces années terribles et ce moment terrible dans les tranchées et la révolte des mutins, vous l'avez dit, il a choisi 7 spectacles parce que le chiffre 666 était un peu trop fort, mais 7, il y a déjà une symbolique aussi quand
c'est
même.
C'est une symbolique aussi, oui, et tout oui. À fait, tout à fait. 7, c'est très fort comme symbole, et ça a une notion, j'allais dire, de cycle et en même temps de continuité, puisque 7, on est encore sur l'impair et ça appelle autre chose, donc ça montre que...
Ça veut dire
que...
qu'il suit aussi les générations des...
Complètement, complètement. Les 7 spectacles, le suivant, c'est le Front Populaire, c'est 36, ensuite il y a la guerre d'Espagne, etc. Et le septième se déroule aujourd'hui dans le milieu du spectacle. Et le septième, justement, il le joue à Avignon, au off. Il retarde son démarrage d'Avignon spécialement pour être aux Oralies, pour jouer le numéro 1. Et si vous voulez savoir tout de suite la fin, le septième, c'est à Avignon pendant le off.
Une belle chose à voir. François Godard, donc retenez ce nom parce que ça paraît superbe et c'est sur des résistances. Donc c'est vrai que c'est un beau mot aussi et dont on a besoin en ce moment parce
oui.
que
oui.
on a besoin de résister à l'ambiance un petit peu plombée de beaucoup de choses, à l'obscurantisme, à la crise, etc., etc. Et les contes sont peut-être là pour ça aussi. C'est une bonne chose.
Tout à fait. Les contes de tout temps ont été là pour être comme des bâtons qu'on ramasse pour marcher sur le chemin, c'est quelque chose qui soutient, même si on ne sait pas trop de quelle façon le conte n'assène pas de morale, mais il porte une leçon de vie, des leçons de vie. Il y a, dans un conte, il y a énormément de choses différentes à entendre, et selon le moment où on l'entend, selon l'âge qu'on a, selon la vie qu'on mène, on entend une chose ou une autre. Les contes sont là pour ça.
Vous l'avez dit, le samedi, c'est à la place Pierre Magnan, devant la librairie La Carline, que ça se passe. Il y a beaucoup de choses à voir. Et puis moi, je vous conseille évidemment la conférence de Bruno de La Salle. C'est une lettre à un jeune conteur. Là aussi, il y a des clins d'œil. Hein.
Voilà, il y a un beau clin d'œil appuyé à Rainer Maria Rilke et ses lettres à un jeune poète. Et donc, Bruno de La Salle, qui a énormément de choses à transmettre et qui les transmet avec une grande générosité, vient de sortir un livre qui s'appelle Lettres à un jeune conteur. Et donc, à 11h, le matin, vraiment, venez écouter, venez questionner cette mémoire vivante, ça vaut la peine.
Laurent Descartes, vous avez organisé ce festival avec, je suppose, une belle équipe autour de vous ?
Oui, tout à fait. La Baleine qui divague, ce sont 3 permanents donc, qui travaillent toute l'année sur le conte, sur des productions, des diffusions, des mises en rapport aussi, et puis des projets, que ce soit dans des écoles, dans des hôpitaux. On a travaillé aussi avec des prisons. Énormément de projets qui se montent. On est centre ressources conte régional, c'est-à-dire que sur les 6 départements de la région, on accompagne aussi des porteurs de projets qui nous appellent, qui nous disent « voilà, j'ai tel ou tel projet en rapport avec le conte » et on les aide à mettre en place, on précise les projets, on voit de quelle façon ça peut se faire, quels conteurs peuvent répondre à leurs demandes, comment monter les opérations pour qu'elles voient le jour.
Et vous avez des soutiens institutionnels, je suppose, et financiers ?
Nous avons des soutiens institutionnels et financiers qui sont on peut le dire, encore solides par les temps qui courent. On ne va pas se plaindre. On est encore soutenu par les différentes institutions. Et
c'est-à-dire la DRAC, le ministère de la Culture, la région ?
Tout à fait. La DRAC, la région, le département des Bouches-du-Rhône, puisque c'est là que nous avons notre siège, et le département des Alpes-de-Haute-Provence, qu'on commence à rencontrer pour les Oralies, notamment, également la ville de Marseille, où nous avons notre siège, où nous avons beaucoup d'actions également.
Et sur Fort-Calquier, vos soutiens ?
Et Fort-Calquier, la ville de Fort-Calquier, donc qui nous a invités à nous lancer dans l'aventure des Oralies dès cette année. Nous, on se disait, on va prendre un petit peu le temps, on va s'installer.
C'est une belle manière de faire connaissance quand même, de balancer un festival comme ça.
Oui, oui. Et puis bon, ben, c'est dans. Je vais encore mettre la mauvaise métaphore, mais c'est l'épreuve du feu. Il y a un moment donné où il faut plonger. Donc on plonge, et puis voilà. Et puis on est très content de plonger parce que le festival va être agréable.
Vous êtes spécialiste des contrastes, hein, l'épreuve du feu, plonger. bravo, bravo.
Voilà, donc effectivement, la ville de Fort-Calquier nous soutient et nous aide beaucoup pour mettre en place ce festival, et aussi les commerçants de Fort-Calquier.
Oui, et qui jouent le jeu.
Ah oui, tout à fait, puisque par exemple, pour la Vespré Comté, les gens qui auront écouté les contes le samedi soir pourront gagner le panier du Petit Chaperon Rouge, panier garni par les commerçants de Fort-Calquier, et il y a aussi un grand jeu sur les vitrines des commerces de la ville de Fort-Calquier. Vous avez 22 vitrines avec un conte à suivre, donc si vous les suivez dans l'ordre, vous avez l'histoire, et en regardant chaque vitrine, vous trouverez un ou deux mots soulignés, écrivez-les sur un papier, amenez tout ça à la librairie et les 6 premiers gagneront un livre de contes.
Une belle affaire, une belle opération. C'est à Fort-Calquier ce week-end, Fort-Calquier qui bouge bien. On a gardé pour la fin aussi quelque chose d'un peu émouvant pour moi, mais je vais recevoir demain des personnes qui vont en parler. C'est la publication d'un livre sur Lucien Henri Lulu de Fort-Calquier, qui était un monsieur très particulier et en même temps un esthète et un mécène extraordinaire, et dont vous allez parler dans votre festival.
Tout à fait, Lulu est une figure de Fort-Calquier, une figure locale, et le livre qui sort juste ces jours-ci, eh bien nous allons accueillir l'éditeur Emmanuel qui va venir en parler.
Emmanuel Janté, c'est-à-dire d'édition.
Oui, et, tout à fait, pardon. Et c'est vrai que des personnages comme ça sont des personnages qui restent dans l'inconscient collectif. Tous les gens qui l'ont connu en ont une image, en ont un souvenir, et c'est aussi comme ça que se forgent des légendes.
Avec en plus une fin dramatique que tout le monde connaît ici même en 1988. Bon, voilà, c'est la fin de cet entretien. Laurent, bonne chance à votre festival.
Merci.
Bienvenue à la baleine qui divague en pays de Fort-Calquier et puis dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a un site internet avec le programme.
Tout à fait. Le site, c'est celui de la baleine. Donc, c'est les 3 W. Ensuite, on tape la baleine qui divague en un seul mot tout attaché. Attention, la baleine, elle dit des vagues, elle parle de la mer, elle dit ce qu'elle sait. La baleine chez les Amérindiens, c'est la mémoire du monde. Et derrière, il y a .org. Donc, la baleine qui dit vague, .org.
Merci Laurent Descartes, à bientôt.
Avec plaisir.